Music du Monde, Laurence Alloa, Tegui Mfatroré. Musique du Monde sur RFI.
S comme chaman, H comme harmonie, A comme âne, M comme mélodie, A comme amour, N comme goni, E comme éveil, S comme spiritualité. On peut dire que c'est beau, un acronyme, la nuit. Chaman, c'est donc le nouvel et septième album d'Anne Passeo, devenu en quelques années une des grandes personnalités du jazz en France et au-delà des frontières. Et s'est entouré d'Isabelle Serling et Marion Rampal au chant, Tony Pellman au piano et Zachary Xic à la trompette. Qu'Anne Passeo ouvre la session live. Bienvenue, willkommen, welcome. Ça, c'est pour donner un petit côté cabaret berlinois des années 30, ce qui n'a rien à faire dans cette émission. Bonsoir. Anne Passeo sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde. La session live. Sur RFI.
Anne Passeo à la batterie, au chant, Isabelle Serning, Marion Rampal au chant également. J'ai vu qu'Isabelle aussi faisait de la bidouille. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il va falloir qu'on en cause. Tony Pellman était au piano et Zachary Xic à la trompette. Bonsoir Anne Passeo.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Super bien.
Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu?
Ça fait quelques années, puis il y a eu une faille temporelle, cette pandémie.
Ah, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Pendant 2 ans, vous avez dormi?
J'ai monté un label.
Racontez.
Ben,
s'il vous plaît.
Disons qu'on était un peu à l'arrêt, nous les musiciens, on ne pouvait plus travailler. Et je me suis dit que c'était l'occasion de commencer des grands projets, de sauter le pas. Et donc j'ai une association et puis j'ai décidé que l'asso allait produire des disques. Donc il a fallu se structurer. Et,
comment s'appelle ce label et cette structure,
Le label s'appelle Jusqu'à la nuit.
Pourquoi?
En fait, c'est parti d'un... J'étais avec une amie pendant le confinement numéro 2. On se promenait sur une plage de Normandie et elle me dit « Viens, on marche jusqu'à la nuit ». Et j'ai trouvé l'image très belle.
Je ne sais pas si vous êtes une grande lectrice, mais il y a un roman de Doris Lessing qui s'appelle « L'été avant la nuit ». Et en fait, ça parle du vieillissement et de la mort. C'est l'été, le moment où tu es encore en pleine forme, avant la nuit, où ce sera le grand sommeil.
Bah, c'est vrai que parfois je fais les choses et j'y réfléchis après coup. Et en fait, je me rends compte, même tout ce disque en fait, parle de ça aussi.
Alors, votre disque s'appelle Chaman. Le chamanisme, vous n'êtes pas né dans cette tradition. Je sais que vous avez grandi à Douala, en Côte d'Ivoire. Et puis, vous êtes retourné ensuite en France. Vous avez fait le Conservatoire National Supérieur de Paris. On aurait pu croire que, comme vous avez grandi dans un pays africain, l'Afrique aurait vraiment imprégné votre vie, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait faux. En revanche, quand je regarde votre carrière, c'est surtout l'Asie qui vous a intéressé, la Birmanie, le Japon. Le Japon, vous lui avez consacré un album en 2012 qui s'appelait Yokai. La Birmanie, c'était avec Fable of Shwedagon en 2018. Il n'y a pas que la culture et les rythmes et la musique de l'Asie qui vous ont intéressé. Est-ce que vous vous êtes rapproché aussi du bouddhisme?
En Birmanie, notamment, le bouddhisme est très très présent. Les Birmans sont très fervents. Et tout le monde va à la pagode. Les enfants, quand ils sont jeunes, sont envoyés dans les pagodes et dans les couvents, enfin les monastères plutôt.
Pour apprendre, c'est l'école.
Voilà, et toute leur vie, en fait, le bouddhisme est très présent. Et j'ai pas de pratique particulière du bouddhisme, mais c'est une philosophie qui m'intéresse beaucoup.
Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est l'aspect réincarnation, karma, c'est-à-dire que chaque acte a des conséquences et qu'éventuellement viendra réparer ce qu'on a mal fait dans cette vie-là, dans une vie future.
C'est vrai que la réincarnation, je trouve ça intéressant. On vit dans une drôle de culture quand même, où en fait on ne fait jamais face à la mort. Jamais, jamais, jamais. Et en tout cas, notre culture d'occidentaux. Et le bouddhisme, en fait, la mort, elle est présente, mais pour amener vers un ailleurs aussi. C'est-à-dire, si on fait des actes bienfaisants, si on s'occupe bien des autres, qu'on est généreux, on a des chances de se réincarner dans une personne qui aura une jolie vie. Et je trouve ça assez chouette.
Il y a un clip qui est issu de cet album qui s'appelle « Reste un oiseau », qui ne va pas du tout dans le sens du bouddhisme, parce qu'on voit un personnage, c'est une animation. Hein. On voit une femme, aux cheveux noirs, qui devient un oiseau. Dans le bouddhisme, c'est un peu la cata, parce que là, ça veut dire qu'on régresse.
C'est vrai. Après, dans ce clip-là, l'idée, c'était plus l'idée de la mue. C'est une thématique qui m'intéresse et qui
une
me parle beaucoup.
Une femme qui a une queue, des plumes et qui s'envole.
Oui, et puis qui est accompagnée par les anciennes, qui l'accompagnent dans cette grotte. Donc une passation de femme à femme, en fait, qui l'emmène dans cette grotte où elle découvre les animaux sur les murs. Et puis, au fur et à mesure, elle fait corps avec le paysage, avec les animaux, jusqu'à elle-même devenir un oiseau.
C'est à cause des peintures rupestres qu'elle pense aux animaux. Les hommes des cavernes ne se représentaient pas, ce qui est assez étrange. Ils ne représentaient que des animaux.
C'est vrai.
Leurs mains.
Après, il y a cet été-là, en fait, l'été où j'ai réfléchi à ce clip, je suis allée visiter les grottes de Lascaux, tout un tas de grottes dans le Périgord, et il y a une représentation humaine qui est au fond d'un puits, très 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 loin, je ne sais même pas comment ils l'ont trouvé. Mais c'est vrai qu'il ne se représentait pas, où il y a une femme enceinte aussi.
Assez rare, à part, il n'y a rien à aujourd'hui, on n'a rien perdu. Chaman, le chamanisme est une forme assez ancienne, j'allais dire, ce sont presque les premiers prêtres, ce sont des gens qui ont des vibrations un petit peu différentes de la moyenne du commun des mortels. C'est un lien entre l'invisible et l'humain. Quelle est votre première expérience de chamanisme? Vu que vous êtes allé beaucoup en Asie, qu'il y a quelques, il y a un terreau, mais enfin aussi en Asie centrale, Sibérie, République de Touva, Mongolie. Après, il y a des lieux avec des cultes particuliers comme Haïti, mais ça vient des Yoruba d'Afrique, le Candomblé aussi au Brésil, etc., etc. Mais ça, ça arrive du continent africain.
Mes premières expériences, alors j'ai jamais vécu de cérémonie chamanique à proprement parler. Après, ça m'a toujours passionnée énormément depuis enfant. En fait, et à 17 ans, j'ai lu ce livre de Corinne Sombrin qui s'appelle Mon initiation chez les chamans. Donc, c'est cette femme qui est journaliste qui part pour faire un reportage pour la BBC en Mongolie, qui se retrouve dans une yourte en plein milieu de la steppe à enregistrer une cérémonie et à partir complètement en transe, à faire le loup, à avoir des visions. J'ai trouvé ça complètement fou parce qu'encore une fois, dans nos cultures occidentales, en fait, on croit pas vraiment au magique en fait.
Il y a un film qui a été fait autour de Corinne Sombrin, je crois que c'est Cécile de France qui joue son rôle.
Oui. Ouais.
Donc cet univers, cette partie invisible, vous attire parce que quoi, il y a du mystère, c'est de l'espoir, c'est donner un sens à sa naissance, sa vie et sa mort. Qu'est-ce que c'est pour vous? Ou de la poésie?
C'est de la poésie et puis c'est aussi... En fait, je fais souvent le lien aussi entre le fait d'être artiste et les chamans. Parce qu'en fait, le ou la chamane voit des mondes. Et raconte des mondes que nous, on ne peut pas voir. Et je trouve qu'être artiste, c'est un peu ça aussi, parce que quand un peintre ou une peintre crée une immense toile d'un paysage qu'on n'a jamais vu, j'ai l'impression que c'est se connecter avec un au-delà. Et quand on est musicien aussi, en ce moment, je réfléchis aussi à comment la musique me vient. Et en fait, c'est comme si ça me coulait dessus de je ne sais où. Et
comme un canal.
Ouais, c'est ça, comme si on était le vecteur de quelque chose de plus grand et de plus puissant et de plus fort. Et j'ai l'impression que les artistes et les chamans ont ce côté un peu, canal, vecteur de l'insensible.
Guérisseur.
Guérisseur aussi, évidemment.
Dans certaines traditions sur Terre, il y a des musiques qui sont entièrement dédiées aux soins. Notamment, je prends cet exemple parce qu'on est souvent allé, mais les musiques gnawa d'Afrique du Nord, notamment au Maroc, parce qu'il y a un festival qui leur a été dédié, ce qui leur a permis d'avoir plus de visibilité. Au départ, ce sont des musiques de transe pour soigner, j'allais dire, les névroses. Parce que quand on arrive aux psychoses, il faut quand même aller voir un autre docteur, ça ne marche pas. Mais vous-même, quand vous jouez, vous avez le sentiment de participer à une fin de grippe, à une fin de rhume, une fin d'otite.
En tout cas, moi, quand je joue de la musique, j'ai l'impression que ça me soigne. Quand j'ai écrit ce disque, c'était une période assez compliquée pour moi et j'ai l'impression que l'écriture de cette musique m'a permis de remonter, en fait. Et c'est vrai que j'ai un peu cette volonté aussi et j'ai l'impression que ce disque, en fait, je me dis comme moi, il m'a soigné et il m'a aidé à remonter la pente. Je me dis peut-être qu'il peut faire cet effet-là sur les autres et c'est marrant parce que je reçois énormément de messages avec ce disque sur Facebook, sur Instagram, des mails, des textos de gens qui me disent « bon sens que ça me fait du bien ».
On sent que ça me fait du bien. Puis là, ouais. C'est pas un texto, c'est pas Instagram, c'est pas Facebook, c'est pas Messenger. C'est une personne vivante dans un studio.
Ouais, mais c'est
dingue. Hein,
mais c'est ça, c'est merveilleux. Voilà, de faire le bien, en fait, et de faire du bien aux autres. Et surtout, en fait, après la période qu'on a vécue tous, je veux dire, c'était n'importe quoi, cette période de 2 ans, là. Et en fait, c'est une façon de reconnecter entre humains, en fait. Quand on fait des concerts avec ce groupe, j'ai l'impression que c'est des grandes célébrations de la vie, quoi. C'est des odes à la vie. On est tous ensemble, tout ensemble. Et voilà, on célèbre le fait d'être là, d'être vivant et de partager.
Vous nous faites une petite montée d'empathie, Anne Passeron.
Oui, j'ai toujours été assez empathique.
Je vous propose d'écouter un titre de votre album. C'est celui qui ouvre d'ailleurs Chaman. C'est le titre Wild Away. Compact, la version CD pour voir aussi un peu le travail de production. With all the weird to tell it's strange. C'était le titre Wild Away, qui est extrait de ce tout nouvel album d'Anne Passeo, Chaman. Vous aimez bien les voix de femmes, hein? Là, on a Marion Rampal, Isabelle Serling, mais vous avez travaillé, alors pas sur vos propres albums, avec Jeanne Haddad, avec Mélissa Lavaux. Et puis sur vos disques, vous aimez bien inviter quand même des voix, parce que vous-même, vous vous autorisez pas vraiment à chanter, vous brouillez.
J'ai pas mal chanté sur Chaman. Après, c'est souvent des troisièmes voix, où j'ai un lead de temps en temps. Je me l'autorise de plus en plus. Mais j'aime faire appel à des chanteuses vraiment dans ce métier et que j'admire aussi.
Alors sur Chaman, le propos de départ, c'était quand même de vous ouvrir à des spiritualités extra-européennes. Et de fait, dans le chamanisme, la base, quand on parle de la musique, c'est une voix, une percussion. Oui. Donc sur ce disque, vous avez pris un deuxième percussionniste, un deuxième batteur.
Ouais, c'est ça. Alors c'est la rencontre qui a provoqué le fait... C'est la rencontre avec Benjamin Flamand, en fait. Il a un instrument incroyable, parce que dessous, c'est une batterie. Et dessus, c'est un instrument qu'il a inventé. Il y a des équerres en métal qu'il a accordés. Il y a des bols qu'il a accordés aussi, des gongs. Il y a tout un tas de trucs. Et ce qui fait qu'il peut être vraiment percussionniste, au sens batterie-percussion, mais aussi jouer tout ce qui est métallophone, en fait. Jouer des mélodies, faire des solos, faire des rythmiques. Et en fait, je trouve que ça amène à une possibilité d'orchestration qui est très grande.
J'ai lu un article vous concernant dans Télérama, je crois, signé par Louis-Julien Nicolaou, qui parlait de votre album comme étant vraiment un album très spirituel et aussi très féministe. Quand on parle de chaman, si je vais vers le côté féminin, est-ce qu'on doit entendre aussi le mot sorcière?
Ouais, évidemment. En fait, il y a eu cette lecture qui m'a...
Mona Chollet.
Ouais, Mona Chollet, en fait.
Sorcière, la puissance invaincue des femmes.
Voilà. On a toujours, en fait, dans l'imaginaire collectif, la sorcière, c'est le nécrochu, c'est la méchante. En fait, les femmes, en fait, ont toujours été des sorcières, des guérisseuses, se sont entraidées. C'est la sorcière qu'on allait voir pour se soigner, quoi. Et puis... Après, il y a eu la médecine moderne, le patriarcal, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quelque part, ce dit, c'est un peu une ode aux femmes et aux femmes guérisseuses et aux femmes puissantes.
Ça, c'est un mot qu'on entend souvent maintenant, femme et puissante. Alors, puissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit d'être célibataire, qu'on a le droit de ne pas faire d'enfants, qu'on a le droit d'être vieille, qu'on a le droit de quoi?
Ça veut dire qu'on a le droit de tout, en fait. Et je pense que pendant des centaines d'années, en fait, les femmes ont été un peu brimées, un peu écrasé, un peu assigné à une place, et qu'en fait, maintenant, on en a marre et on se libère, quoi.
Les choses ont quand même drôlement bougé ces dernières années. Je suppose que le mouvement MeToo n'y est pas pour rien. Aujourd'hui, quand je vais sur Internet et je vois des émissions qui ont une quinzaine d'années à la télévision française, où on se permettait des blagues assez graveleuses sur les femmes, si tu le fais aujourd'hui, je te raconte pas ce que tu te prends sur les réseaux sociaux, quoi.
Ouais, c'est compliqué. Évidemment, les choses changent et ça va beaucoup mieux.
Et tant mieux.
Après, je pense qu'on a encore énormément de progrès à faire. Il y a plein de choses insidieuses, en fait, même dans notre langue. La langue même est faite pour les hommes, en fait. C'est le masculin qui l'emporte en français.
Oui, et puis aussi, il y a certains mots qui, chez les masculins, signifient quelque chose de très joli. Et quand on le tourne en féminin, c'est pas terrible. Péripatéticien, c'est un philosophe. Péripatéticienne, c'est une pute.
Voilà, et un batteur... Un mec qui joue de la batterie et une batteuse, c'est... Moi, on me dit toujours, c'est moche, la batteuse, la moissonneuse batteuse. Je fais, non, mais en fait, c'est quoi le... Quel est le problème, enfin.
Est-ce que vous avez Il y a eu du Me Too Music aussi. J'ai vu sur les réseaux certaines femmes qui s'étaient un petit peu emparées de ça dans le milieu musical, avec des ingé-sons un peu macho. Est-ce que vous avez dû un jour avoir affaire à un type de comportement qui vous semblait déplacé ou tout va bien?
Évidemment, de temps en temps, il y a des comportements qui sont déplacés. Après, maintenant, je mets le holà direct, en fait. Je dis non, ça c'est pas possible avec moi.
Pour revenir à cet album Chaman, il est déjà sur scène. Vous travaillez toujours avec les mêmes personnes. Vous avez un côté très, très famille. Quand vous avez un musicien avec qui vous entendez bien, vous le gardez jusqu'au bout.
En fait, j'aime bien constituer des équipes et avoir un genre de collectif de musiciens avec qui j'aime travailler. Et puis peut-être je vais jouer avec telle personne sur un disque et on va plus se voir pendant un moment et se retrouver. Mais... Je pense que c'est des personnalités avec lesquelles je m'entends bien musicalement, avec qui il y a quelque chose qui passe, mais aussi humainement. Parce qu'en fait, ça fait vraiment 50% des choses. Et je pourrais pas tourner avec des gens que j'apprécie pas, quoi. Il faut que ça soit des gens que j'aime vraiment, en fait.
Avec votre label, avec votre nouvelle structure Jusqu'à la nuit, vous allez vous signer d'autres artistes?
J'aimerais bien, c'était le projet au départ. Et en fait, ça a été un tel boulot titanesque, en fait, de sortir ce disque pour moi, que je vais attendre un petit peu. Ouais. Et aussi, il faut être honnête, l'industrie du disque va pas bien. On perd tous de l'argent sur nos disques, en fait. Donc, je peux accepter de perdre de l'argent sur le mien parce que je développe mon truc, mais après, faut avoir des mécènes vraiment qui ont beaucoup d'argent, qui ont vraiment envie d'aider la musique, parce qu'en fait, produire des disques aujourd'hui, c'est une folie, en fait.
Il y a des banques hein, qui sont mécènes. J'en ai rencontré une qui vous concernait il n'y a pas très longtemps, ouais. Au festival Radio Meux, Circus Festival.
Bah oui, heureusement qu'il y a la fondation BNP Paribas. Moi, c'est grâce à eux notamment que j'ai pu faire ce disque aussi. Mais ouais. Je pense que sans eux, c'était raté. Quoi.
Est-ce qu'une compositrice musicienne de jazz gagne sa vie en streaming sur les plateformes?
Non. Mais est-ce que quelqu'un gagne sa vie sur les plateformes
Rihanna,
en streaming? Je suis même
Kenny
pas
West.
Sûre. Après, en fait, nous, on est très heureux quand on se retrouve dans des playlists et quand notre musique est diffusée, évidemment. Après, clairement, on gagne pas notre vie comme ça. En fait, on gagne notre vie en faisant des concerts.
Donc, il faut tourner.
Il faut tourner.
Donc, pendant la pandémie, c'était la dèche.
Ben, heureusement, on avait les acédiques parce que la plupart d'entre nous sont intermittents du spectacle. Par contre, celles et ceux qui ne l'étaient pas, là, je pense que c'était très compliqué.
Quand vous avez fait ce disque, Chaman, vous étiez aussi artiste associé au festival Jazz sous les Pommiers.
Ouais.
Ouais. Et c'est aussi grâce à cette structure, j'allais dire, que ce disque a pu voir le jour.
Ouais, ben en fait, c'était Denis Lebas, donc le directeur de Jazz sous les Pommiers, qui me dit « Qu'est-ce que tu veux faire pour ta dernière création au festival ?» Donc j'ai tourné les choses dans ma tête pendant un bon petit moment et je lui dis « Je crois que voilà, je sais ce que je veux faire. » Donc le concert était prévu en mai 2020, évidemment, il ne s'est pas fait. Et ça a reporté à... Ils ont refait le festival en septembre, et donc c'est là qu'on a donné la première. Et en sortant de là, je me suis dit, il faut faire un disque. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces personnalités-là. Sur cette musique-là, il y a quelque chose, et il faut qu'on entre en studio, quoi.
C'est la première fois que je vous vois avec Ngoni. Cela dit, je ne vous connais pas très bien, donc si ça se trouve, ça fait des dizaines d'années que vous baladez avec cet instrument. Mais en général, je le vois entre les mains de griots,
ouais.
D'Afrique de l'Ouest. Alors, vous êtes une griotte d'un genre inédit, sûrement.
Alors, c'est... On va dire qu'il est de la famille du Ngoni, mais il a pas été fabriqué en Afrique de l'Ouest. En fait, je vais vous raconter l'histoire. Il y a quelques années, ma grand-mère est décédée et j'ai eu des sous dans un genre d'assurance vie et j'arrivais pas à dépenser cet argent. J'en parle avec Christophe Panzani, qui est membre du groupe aussi, et il me dit, bah moi, quand ma grand-mère est décédée, je me suis acheté une clarinette basse. La clarinette sera avec moi toute ma vie. Et ma grand-mère décède, mon grand-père décède, je me dis bon, il faut que je fasse un truc avec cet argent. Et je me promenais dans le Marais Poitevin. Et je tombe dans une petite boutique où il y avait plein de Ngoni. Et j'en essaye plein, et j'essaye celui-là. Et là, ça me fait du bien dans mon corps, dans mon âme. Voilà. Et du coup, je suis repartie avec. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-là, il est un peu particulier, parce que normalement, les Ngoni, on ne voit pas leur âme. Et en fait, il y a des ouïes sur les côtés.
L'âme, c'est le petit bâton qui est à l'intérieur de l'instrument. On a dans les violons, dans beaucoup d'instruments à cordes, en fait. Et si l'âme casse, en fait, c'est tout le son de l'instrument qui part en sucette.
C'est ça. Mais voilà, celui-là, on voit son âme. Et voilà, je trouvais ça beau. Et depuis, il m'accompagne partout. J'adore me promener dans Paris avec, marcher, jouer de la musique. Je trouve ça... Ça met de la poésie dans le quotidien, quoi.
On va terminer cette session-là, Van Passeo, avec deux titres qui sont extraits du nouvel album, Chaman. Vous avez orthographié Chaman comme un acronyme, avec un point derrière chaque lettre.
Ouais.
Pourquoi ?
Ben, c'est pour laisser quelque chose un peu d'ouvert. C'est-à-dire que Chaman, il s'orthographie de plein de manières dans toutes les cultures. Et là, en fait, on ne sait pas si c'est masculin, si c'est féminin, si c'est au singulier, si c'est au pluriel. C'est aussi un petit clin d'œil à l'écriture inclusive, je crois.
Reste un oiseau et l'aube sont les deux titres que vous allez interpréter avec vos musiciens. Alors, reste un oiseau, l'oiseau, semble-t-il, vole sur tout cet album. Connaissez toute la symbolique de l'oiseau quand on le choisit comme animal totem?
Non.
Ça, il faut avoir fait un petit peu de développement personnel. Ah ben non, moi je ne suis pas au courant, je vous demande. Hein.
Pour moi, c'est un symbole de liberté, tout simplement.
Ouais, comme le clip, quoi.
Voilà.
Vous en voulez. J'ai lu que l'esprit de l'oiseau relie l'esprit de la terre à celui du ciel, donc un rapport entre le haut et le bas, entre le divin et l'humain, voyez,
ouais.
Entre le sacré et le profane.
Bah, ça marche bien. En fait, c'est très drôle parce que parfois je fais des choses et après coup je me rends compte que tout avait un sens. Mais moi, en le faisant, je m'en suis pas rendu compte et après je reconnecte les trucs, je me dis ah ouais, ok, c'est. C'était une évidence, quoi.
Et lors de votre petite, quand je dis petite, c'est pas minorant, hein, petite retraite bouddhiste, est-ce que comme l'oiseau, vous avez appris à vous détacher des préoccupations du monde ?
Ouais, à ce moment-là, oui. C'est vrai que je suis partie une semaine dans les Alpes chez les bouddhistes. Et quand je suis rentrée de là, je crois que je m'étais jamais sentie aussi bien de ma vie.
Ils vous ont mis dans un caisson ?
Non, ils m'ont mis dans la nature et ils m'ont fait méditer tous les jours. Ils m'ont fait lever à 4h du mat, ce qui est quand même pas très habituel chez moi.
C'est là où vous couchez en général.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était... En fait, après, tout me passait dessus. Enfin, voilà, la pluie ne mouille plus, le soleil ne donne plus de coups de soleil. Enfin, on est... Rien ne paraît grave, en fait. Tout coule, tout passe, et c'est assez chouette. Quand même.
Juste pour explication, le caisson, c'est un endroit où on peut ni dormir, s'allonger, ni être complètement debout. C'est quand on veut véritablement devenir un bouddhiste, on reste 3 ans, 3 mois, 3 semaines dans
un endroit,
ouais, à lire les écritures du Bouddha. Ouh. En sanskrit.
Ah, je, ça,
vous avez mis 8 caissons. Oh, moi, j'ai toujours confondu ça avec un poulailler. Je me suis dit, mais jamais. Bon, je vais vous laisser avec Isabelle Serling, Marion Rampal, Tony Pellman et Zachary Xic pour les titres Reste un oiseau, enchaîné à l'aube. C'est un mini-concert. Merci Anne Passeo et bonne chance, bonne route à l'album Chaman.
Merci à vous.
Comment on dit en birman ?
Jesu Timbalé.
C'est joli. Je prends, j'achète. Thank you. Passez-vous dans la session live, suite avec le titre L'Aube.
I linger by the fog, waiting for
C'était la session live d'Anne Passeo au son, Mathias Taylor et Benoît Le Tyran.
Musique du monde sur RFI.
La Napa est le nouvel EP du trompettiste Étienne Sevet qui agit sous le nom de The Bongo Hop. Le garçon a passé quelques années en Colombie, à Cali, où il a organisé des concerts. Sur cette galette, le Globetrotter invite le chanteur angolais basé à Lisbonne, Paulo Flores, qui est l'une des grandes voix du pays dans la génération post-bonga, mais aussi son amie, la diva afro-colombienne Nidia Gongora, ou Swadasla from El Jazair. On vous avait prévenu, Étienne Sevet a de très très grandes oreilles.
Viajei pro estrangeiro, os camba deixei ficar no meu terreiro. Cheguei na Tuga inteiro, na vida não tem amor como o primeiro. Eu só falhei na ilusão, teria muito jabá, muito dinheiro. Passava na televisão o sítio do pica-pau amarelo. Era o tempo rei da brincadeira, onde a vida é feita pra beijar. Mas aquilo é só risca na areia, quando essa kizomba começar. Thank you.
On termine Musique du Monde avec le Chant des Fauves, un hymne, un aveu pour les Maliens de Tinariwen, enfin des Keltamachèques, hein, des Touaregs. Leur label a remasterisé le premier album studio de Radio Tisda Sessions à l'occasion du 20e anniversaire de sa sortie. Alors bien sûr, des fantômes habitent cet album, mais dans le désert blues, qui sait ? Un jour qui vivant, un jour qui mort. Joker. Je crois que je peux vous dire une chose sérieuse, c'est fini. Si vous voulez réécouter l'émission, c'est possible. Il y a les podcasts sur le RFI.fr et puis aussi il y a la page d'accueil de l'émission sur le musique.rfi.fr où vous aurez toutes les coordonnées des artistes qui sont passés dans cette émission. Bye.